Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 32 des Dessous de la cosmétique, le podcast qui vous dévoile et vous explique avec clarté et sincérité le monde de la cosmétique. Je suis Julie Magan-Castel, biologiste chimiste et cofondatrice des soins bio, actifs et sensoriels, Mastel. Si vous êtes curieux et curieuse et que vous êtes à la recherche d'une crème ou d'une huile efficace contre les premiers signes de l'âge, je vous invite à découvrir nos soins sur mastelcosmetics.com. Je suis hyper contente d'enregistrer ce podcast aujourd'hui, parce qu'on va parler d'analyse de cycle de vie et de greenwashing. Donc l'analyse de cycle de vie, c'était le sujet de notre première conférence avec lui qu'on a tenue au salon professionnel Le Luxe Pack de Monaco, donc récemment en octobre 2022. Donc vraiment, je suis trop contente. Le greenwashing, c'est un sujet qui revient beaucoup dans le monde de la cosmétique. Nous allons voir ce que c'est, comment ne pas tomber dans les pièges de cette technique marketing un peu frauduleuse. Dans un premier temps, nous allons voir différents exemples de greenwashing, puis ce qu'est l'analyse de cycle de vie, et enfin comment l'analyse de cycle de vie combat le greenwashing. Alors, qu'est-ce que le greenwashing ? On appelle greenwashing les techniques de communication de certaines marques, un peu frauduleuses, qui laissent penser que le produit est éco-conçu alors qu'il ne l'est pas vraiment. Le terme vient de l'anglais, où green veut dire vert, et whitewashing veut dire blanchiment. Donc ce serait en quelque sorte un blanchiment vert ou un éco-blanchiment. Alors l'intérêt pour le marketeur de faire du greenwashing, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur français est de plus en plus engagé pour l'environnement dans sa consommation. Donc l'engagement sincère d'une marque pour l'environnement est aujourd'hui un argument de poids pour que le consommateur passe à l'acte d'achat. Cependant, l'éco-conception, elle est généralement plus longue, plus coûteuse et plus challengeante qu'une conception de produit normal. Donc certains marketeurs vont laisser penser que le produit a été éco-conçu pour porter l'attention du consommateur, pour vraiment émouvoir le consommateur, alors qu'il n'y a pas eu les moyens mis en œuvre, les moyens humains, des moyens techniques, des moyens financiers, pour développer leur produit de manière totalement durable pour que le produit soit éco-conçu. Donc un exemple de technique marketing qui laisse un petit peu à désirer selon moi, un exemple donc de greenwashing, ce serait si on prend un pot de crème et que dessus, il y a la mention en grand à l'avant du pot « crème à l'abricot français bio ». Si jamais la crème, elle répond pas aux standards bio et qu'elle n'est même pas de production française, pour moi, c'est mensonger. C'est trompeur parce qu'on pense que la revendication bio et française se réfère au produit fini et non à l'abricot. Un autre exemple de technique un peu douteuse serait une marque qui a un nom qui évoque le naturel ou le bio, alors que les produits ne le sont pas vraiment. Aussi, s'il y a une illustration de plante ou de nature sur l'emballage, cela ne veut pas dire que le produit il est naturel. Un emballage en papier craft ou un accessoire éthique ne sont non plus pas des gages d'engagement. Donc attention, si une marque a quelques produits certifiés bio ou naturels, cela ne veut pas dire que tous les produits le sont. Les certifications bio sont délivrées aux produits et non à la marque. D'ailleurs, en parlant de certification bio, pour moi, ça serait la première solution contre le greenwashing. En fait, la certification bio, c'est un pilier en cosmétique, c'est un label sur lequel on peut compter, donc la certification Cosmos, qui est reconnue dans l'industrie et dont il y a une charte exigeante qui reste la même quel que soit le produit. Donc ainsi, on peut s'assurer que le produit est effectivement engagé. Je pense directement au standard Cosmos dont on a déjà parlé dans l'épisode 18, donc je vous invite à écouter ou réécouter. Mais c'est un standard qui a deux certifications. Une certification organique, donc qui veut dire biologique en anglais, ou une certification naturelle. Les organismes certificateurs, donc il y en a plusieurs qu'on a évoqués, mais notamment EcoCert ou Cosmebio, ils revoient les formules des produits, ils revoient leur emballage pour délivrer la certification. Donc en fait, il faut un audit un petit peu de toute la marque pour pouvoir donner la certification du produit. Cela va bien au-delà de ce que le consommateur peut analyser lui-même, parce que ces certificateurs vont avoir accès à des documents confidentiels, comme la formule notamment du produit, et qui vont pouvoir revoir, évaluer selon leur charte et donner ou non leur certification. Ils sont également directement en lien avec les fournisseurs de matières premières pour avoir un accès aux procédés de fabrication et s'assurer que chaque matière a été faite en suivant des procédés de fabrication aussi verts que possible. Donc pour moi, c'est une grande force quand même de la certification Cosmos, car il délivre la certification du produit fini, donc de votre gel douche, de votre crème, etc. Mais il délivre également la certification de la matière première. Donc ils ont une vision vraiment globale du produit. Ainsi, je pense que repérer une certification Cosmos sur un produit, c'est une première solution pour éviter le greenwashing. Parce qu'il y a un certificateur tierce, donc qui n'a aucun lien avec la marque, qui revoit tous les documents et qui dit ou non si ça répond au standard Cosmos, un standard qui a été uniformisé pour tout le monde. Après, attention, si le produit n'a pas de certification, pas de panique. Ça ne veut pas dire que le produit est forcément mauvais pour l'environnement, ça veut juste dire que la marque n'a pas investi financièrement et humainement dans une certification. Donc c'est une certification qui coûte cher, une certification qui prend beaucoup de temps, c'est un coût annuel, donc récurrent, qui demande donc énormément de papier, énormément d'administratifs, de contrôle qualité, pour une bonne traçabilité. Et donc ça peut être peut-être beaucoup trop pour une petite structure. Alors personnellement, je trouve que c'est une belle preuve quand même de qualité pour le consommateur, et c'est pourquoi j'ai voulu investir dans la certification pour les produits Mastel, que du coup nos produits sont certifiés bio selon le standard Cosmos. Après, c'est chacun sa sensibilité et ses envies. Je dis pas que les produits bio sont meilleurs pour tout le monde, je dis pas que tout le monde devrait acheter du bio, mais personnellement, j'ai aimé sélectionner des matières premières qui viennent d'une agriculture biologique, parce que pour moi, ça résonne avec moins de pollution des eaux, moins de pollution des sols, une meilleure diversité dans les champs, et c'est des choses qui résonnent avec moi, avec ce que j'ai, qui sont en accord avec mes convictions. Alors, malgré tout cela, ça veut pas dire que toutes les matières dans un cosmétique certifié bio sont bio. Faut le rappeler, il faut avoir pleinement conscience de ce qu'on achète et de ne pas donner son pouvoir d'achat à une marque qui ne répondrait pas à nos attentes ou même qui nous trompe volontairement en faisant du greenwashing. C'est pour ça que je pense que la certification est un bon moyen afin d'éviter le greenwashing. Aussi, il y a une question que je me pose sincèrement. Aussi, il faut dire que je suis plutôt positive dans l'âme. Je vois plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il y a donc une question que je me pose vraiment sincèrement. C'est est-ce que le greenwashing est toujours conscient? Est-ce que la marque sait quand elle fait du greenwashing? Parce que pour moi, le greenwashing, il peut être abusif ou alors il peut être subtil. Hein, mais des fois, je pense que la marque n'en a même pas conscience. Est-ce que, si on reprend l'exemple tout à l'heure, est-ce que la marque avec la crème à l'abricot bio est français? Est-ce qu'elle dit ça consciemment en se disant « Ah, je vais tromper le consommateur, ils vont penser que mon produit est co-conçu » Ou est-ce qu'elle est super fière d'avoir amélioré le sourcing, donc l'approvisionnement de son actif phare qui est l'abricot, et que maintenant elle a un abricot qui est bio et qui est français, et du coup elle veut juste le crier haut et fort à tout le monde en disant « Regardez, on a amélioré notre sourcing, c'est super !» Ou est-ce que vous pensez que bah, finalement c'est une technique juste pour engendrer un petit peu de business, avoir un petit peu plus de sous, et tromper entre guillemets un peu le consommateur? Je sais pas. Mais quelque chose dont je suis sûre en tout cas, c'est qu'on n'est pas tous égaux en matière d'éducation face à l'environnement. Peut-être que la marque, elle n'a pas les connaissances techniques pour déceler le greenwashing de sa communication. Je pense qu'il y a des pratiques que l'on croit bonnes pour l'environnement, mais qui ne le sont pas vraiment. Des pratiques qu'on n'a pas eu l'habitude de questionner, qu'on pense qu'ils sont les meilleurs alors qu'elles ne le sont pas. On n'est pas tous à un certain niveau de connaissance d'éducation face à l'écologie. Pour pallier à ce biais, je me renseigne beaucoup quand je développe des nouveaux produits pour voir s'il n'y a pas des données scientifiques sur lesquelles je pourrais me baser, des données quantifiées, lorsque je fais du développement de produits. Alors, il faut dire que je suis une nature assez curieuse aussi. Mais ce que j'ai trouvé dernièrement de plus juste, c'est de solliciter une agence environnementale pour effectuer une analyse de cycle de vie sur les produits Mastel. Donc une analyse de cycle de vie, que des fois vous pourrez m'entendre appeler ACV, analyse de cycle de vie, donc ACV, c'est une analyse qui se fait tout au long du cycle de vie du produit. Donc elle est donc multi-étape. Ça veut dire qu'elle va prendre en compte la conception de mon produit, l'extraction des matières premières, la production des matières premières, le transport de la matière première finie jusqu'à la production de mon produit fini, va prendre en compte le produit fini, encore le transport lorsque le produit fini, il va être transporté de l'usine de production jusqu'au centre de distribution, l'usage du produit, la fin de vie du produit, son packaging bien sûr, comment le packaging a été conçu, la production du packaging, le transport du packaging, etc. Donc toutes ces étapes-là vont être prises en compte dans l'analyse de cycle de vie. L'analyse de cycle de vie, elle prend en compte aussi la fin de vie, je ne sais plus si je l'ai dit. La fin de vie, c'est un terme peut-être qui sonne un petit peu bizarre, mais ça veut juste dire la recyclabilité du produit. Est-ce qu'à la fin, on jette le produit à la poubelle ou est-ce qu'il peut être revalorisé? Est-ce qu'il se recycle? L'analyse de cycle de vie, c'est une méthode qui est reconnue et standardisée. Donc ça veut dire que les résultats devront être les mêmes si on passe par une agence A ou une agence B pour nous faire l'analyse de cycle de vie. Donc ça, c'est génial. Donc on vient de voir que c'est une analyse aussi multi-étape, mais c'est également une analyse multi-critères. Ça veut dire que l'analyse de cycle de vie, la CV, elle prend en compte différents critères qui vont avoir différents impacts environnementaux. Je pense notamment, pour donner des exemples très concrets, on a demandé à regarder la quantité de CO2 qui a été relarguée, donc nos émissions CO2, au cours du cycle de vie de notre produit, parce que ça va avoir un impact direct sur le changement climatique. On a demandé aussi de regarder l'acidification, l'eutrophisation et la quantité d'eau utilisée, que ces trois critères-là vont avoir un impact sur notre empreinte eau. Le but, c'est de ne pas te faire de transfert d'impact. C'est-à-dire qu'au cours du développement, si on essaye de changer un petit peu nos développements pour diminuer un impact, on n'augmente pas drastiquement nos impacts sur un autre critère environnemental. Par exemple, je vais prendre un exemple très grotesque. Est-ce que vous préférez sauver une feuille de papier? Comme ça, vous luttez contre la déforestation. Si c'est au détriment de la pollution de tous les océans? Non. On va dire, je préfère utiliser une feuille de papier, mais ne pas polluer tous les océans. Ça serait un transfert d'impact qui n'aurait pas de sens selon moi. Alors concrètement, comment se traduit l'analyse de cycle de vie? En fait, à la fin, j'ai un rapport qui va m'être donné, qui va quantifier l'impact de chacune de mes étapes du cycle de vie du produit sur différents critères environnementaux. Donc, je vous ai parlé des quatre critères environnementaux. Nous, on a choisi les émissions en CO2, l'eutrophisation, l'acidification et la consommation de l'eau. Les résultats les plus parlants de notre analyse de cycle de vie, vous pouvez les retrouver sur notre site internet mastelcosmetics.com. Là, on a choisi de représenter juste les émissions en CO2 et la consommation en eau, parce que je ne pense pas que tout le monde sache ce que veut dire l'eutrophisation et l'acidification de l'eau. Mais du coup, on veut vraiment éduquer le consommateur, on veut donner en fait le pouvoir au consommateur de savoir les impacts de ce qu'il consomme. Ce que j'adore avec l'analyse de cycle de vie, c'est que quand j'ai eu mon rapport, j'ai été surprise en voyant des choses dont j'avais même pas conscience. Par exemple, j'ai été surprise de voir que la culture du jojoba et la culture du karité, qui sont deux ingrédients qu'on a dans nos produits Mastel, avaient en fait un fort impact sur l'écotoxicité. Ces deux matières premières qui sont fréquemment utilisées en cosmétique et qui sont reconnues pour leurs bénéfices sur la peau. Je m'étais dit, génial, c'est naturel, c'est par transformation physique, donc même pas une transformation chimique, donc généralement ça a quand même moins d'impact sur l'environnement. Je me suis dit, génial, tout va bien. Et en fait, grâce au rapport de l'analyse de cycle de vie, j'ai pu voir que comment les plantes grandissent, leur culture, en fait, sont très impactantes, demandent beaucoup d'eau, etc. Aussi, une autre question qu'on peut se poser, là ça n'a rien à voir avec Mastel, mais... Il y a une matière première qui est quand même très décriée dans l'industrie cosmétique et dans l'industrie agroalimentaire notamment, c'est l'huile de palme. On peut se questionner sur l'impact de l'huile de palme parce qu'on sait que sa production entraîne la déforestation. Sauf que vraiment, si les différentes industries l'utilisent, c'est parce qu'elle a un meilleur rendement que toute autre huile. Donc, c'est-à-dire qu'il faut moins de palmiers pour produire la même quantité d'huile qu'il en faudrait pour produire de l'huile qui vient de la coco, par exemple. Donc un seul hectare de cocotier permet la production de 0,7 tonnes d'huile de coco, tandis qu'un seul hectare de palmier va permettre la production de 3 tonnes d'huile de palme. Donc lorsque les producteurs de matières premières ont besoin de matières grasses pour produire leurs matières premières, donc comme les tensioactifs notamment, généralement ce sont des matières qui ont besoin initialement de matières grasses pour être produites, ils se tournent plus facilement vers l'huile de palme car la culture a un meilleur rendement. Donc ça veut dire qu'elle nécessite moins d'arbres pour le même résultat. Alors maintenant, une autre question qu'on peut se poser, c'est quel est le but de l'analyse de cycle de vie pour la marque ? En fait, le but, pour moi, il a été très simple. Hein, c'est que l'analyse de cycle de vie, elle m'a permis de pointer du doigt les matières premières ou les étapes du cycle de vie de mon produit qui ont le plus gros impact et quelles sont les solutions qui me permettraient de les diminuer. Donc, c'est un outil qui prend tout son sens durant le développement car c'est là où on peut faire des choix les plus éclairés. On sait exactement que le choix B va me permettre de diminuer de 20% la quantité d'eau utilisée par rapport au choix A. Mais très concrètement, lors du développement de notre huile, on a fait des essais avec différents agents nettoyants. Oui, parce que notre huile, c'est une huile 3 en 1, donc elle démaquille, nettoie le visage et nettoie la barbe. Donc elle contient une combinaison de différents agents nettoyants. Ça permet notamment au rinçage que la texture s'émulsionne, donc qu'elle se transforme en lait, disons, pour éviter tout fini gras. Donc ces agents nettoyants, comme toute autre matière première, ils ont un impact sur l'environnement. On a fait des essais avec différentes combinaisons d'agents nettoyants. Et aujourd'hui, on est capable de dire que la combinaison d'agents nettoyants qu'on a choisie, la combinaison a un plus faible impact sur l'environnement que la combinaison qu'on avait choisie initialement d'agents nettoyants. Donc là, on voit bien que lors du développement, j'ai pu faire un choix qui m'a dirigé vers un produit moins impactant vers l'environnement. On vient de voir, c'est un but très concret. L'analyse de cycle de vie a un but très concret pour la marque, mais elle a aussi un intérêt pour le consommateur. Pour le consommateur, l'analyse de cycle de vie, c'est la meilleure preuve de l'engagement d'une marque pour l'écologie. Parce que c'est une analyse qui n'est pas du tout obligatoire, qui est très chère, disons-le, parce que c'est plusieurs milliers d'euros par produit, et qui est d'ailleurs très innovante en cosmétique. Pour vous dire, on était les premiers clients dans l'industrie cosmétique de l'agence environnementale avec qui on a travaillé. Ça veut dire que si une marque est transparente, elle donne les résultats quantifiés de son analyse de cycle de vie au consommateur, ça leur permet de faire un choix beaucoup plus éclairé. Ça leur permet de connaître en toute transparence l'impact du produit qu'ils vont acheter, ou non d'ailleurs, de le comparer avec d'autres produits comparables. Donc c'est-à-dire, hein, comparez pas une crème avec un shampoing par exemple, parce que l'utilisation n'est pas la même. Donc le service rendu n'est pas le même, et c'est tout à fait normal que les impacts soient différents d'un produit à un autre. Donc nous, en toute transparence, on a mis par exemple les résultats de notre analyse de cycle de vie, les résultats les plus parlants, donc de la consommation d'eau et l'émission en CO2, de nos produits sur notre site internet. C'est-à-dire que n'importe qui va chercher pour une crème hydratante va pouvoir tomber sur notre crème hydratante, voir exactement quels vont être les impacts qu'il va engendrer en achetant cette crème hydratante. Mais à la fois, il peut voir qu'en comparaison d'une autre crème hydratante, notre crème hydratante se positionne quand même très bien et a globalement moins d'impact qu'une autre crème hydratante. Donc pour conclure, le greenwashing, c'est une technique marketing abusive qui laisse penser aux consommateurs que le produit a été éco-conçu alors qu'il ne l'est pas vraiment. Donc pour ne pas donner votre pouvoir d'achat à une marque qui ne correspond pas vraiment à vos attentes en termes d'environnement, vous pouvez compter sur la certification BioCosmos, donc, dont on a déjà parlé, ou sur la présence d'une analyse de cycle de vie. L'analyse de cycle de vie, c'est une analyse multicritère, multi-étapes et standardisée. Elle va quantifier les impacts de chaque étape de vie du produit selon différents critères environnementaux. Elle permet à la marque de faire des choix beaucoup moins impactants et elle permet au consommateur d'avoir des données quantifiées sur les impacts environnementaux du produit qu'il veut acheter. Alors j'espère que cet épisode vous a plu et que vous en savez plus sur le greenwashing et sur l'analyse de cycle de vie. Comme toujours, vous pouvez retrouver les notes de cet épisode et notamment les résultats de l'analyse de cycle de vie des produits Mastel sur mastelcosmetics.com dans la rubrique podcast. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Les Dessous de la Cosmétique sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Si vous aimez ces podcasts, vous allez adorer notre compte Instagram @mastelcosmetics, donc tout attaché, Mastel M-A-S-T-E-L et Cosmetics C-O-S-M-E-T-I-C-S, donc Cosmetics en anglais au pluriel. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts. Je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous en attendant le prochain épisode sur les applications mobiles d'analyse de cosmétiques. Je vous donnerai la meilleure application, selon moi, et celle sur laquelle il ne faut vraiment pas trop compter. Prenez soin de vous, bye !